بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قام الشيخ قال الحمد لله يقصوها ونيل أوكازيون de vivre la première nuit impaire de ce Ramadan 1433-2012. Et en sortant de Salat al-Tarawih, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes en rentrant en ville et poser la question à quelques amis, comment vous allez passer cette nuit. Alors donc, à force de discuter, on s'est rendu compte, subhanallah, que ces personnes ont avoué ne pas savoir exactement comment passer une nuit dans l'adoration. Après avoir discuté avec ces personnes, donc, on leur a posé la question, ben voilà, ce soir c'est une première nuit impaire. Comme ça, au hasard, on dit, ben comment est-ce que vous allez faire? Vous allez vous réveiller à quelle heure? Quel acte d'adoration vous allez faire, etc., etc. Et là, on s'est rendu compte, c'était un bilan, que les personnes qui étaient présentes ont tous avoué que passer une nuit d'adoration, c'est impossible. Et les personnes m'ont dit que même lorsqu'ils étaient en itikaf, les gens qui étaient en itikaf l'année dernière, ils disent même qu'on était en itikaf l'année dernière, ils disent que malgré le fait qu'on était dans la masjid, on ne sort pas de la masjid, on ne pouvait pas passer une nuit en ibadah. Ils disent ça, c'est pas possible. On dit que c'est pas accessible pour nous. Alors il y a deux possibilités. Soit on ne peut pas passer la nuit dans l'adoration, bon là ce serait le plus grave, parce qu'on n'a pas pris vraiment en considération de l'importance de la nuit. Dans ce cas-là, la solution, c'est de bien revoir les fondamentaux concernant la nuit du destin. Ou alors, c'est une question d'organisation. Savoir comment organiser une nuit de ibad. Donc, pour les deux problèmes différents, il y a une réponse. On voulait parler des deux points ce soir, mais je pense qu'on va se limiter à un seul de ces deux points. Ben, les choses de base que le mu'min doit savoir à propos de la nuit du destin. Sachant qu'on ne va pas faire de programme cette année sur Laylatul Qadr. Hein, le 29e, ce sera le Khatm al-Qur'an et il y aura un Nikah aussi. Donc, c'est l'occasion de faire un petit rappel très bref. Je pense en 15 minutes, on peut faire le tour. Vous rappelez au début du mois de Ramadan, lorsqu'on citait le hadith du prophète alayhi salat wa salam, qui mettait en avant l'importance de ce mois qu'il avait qualifié de Sayyid al-Shuhur. Et parmi les vertus que le prophète alayhi salat wa salam citait, il y avait le fait que les portes du paradis étaient ouvertes, les portes de l'enfer fermées. On avait rappelé ça au début du Ramadan. Et à la fin du hadith, le prophète alayhi salat wa salam avait précisé que durant ce mois, wa fihi laylatun khayrun min alf shahr, il y a une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Man qamaha imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'était la dernière vertu que le prophète alayhi salat wa salam avait cité concernant le mois de Ramadan. Et cette vertu là, c'est le moment de le vivre. Ce qu'on comprend, c'est que le mois de Ramadan a une telle ampleur, entre autres par rapport au fait qu'elle renferme cette fameuse nuit du destin. Alors, la première chose qu'on aimerait voir, c'est qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait particulièrement durant la dernière décade. La chose la plus remarquable que le prophète alayhi salatu wassalam faisait dans la dernière décade de Ramadan, qu'il ne faisait pas dans les 20 premiers jours ou alors les autres périodes de l'année, c'était ce qu'on avait abordé brièvement hier soir, Ihya ul-Layl, passer la nuit. Et quand on dit Ihya ul-Layl, c'est passer l'intégralité de la nuit en ibadah. Hadith de Aïcha radiallahu anha. Et qui, à part Aïcha, qui est plus proche du prophète alayhi salatu wassalam qu'une de ses épouses, qui sait exactement qu'est-ce que le prophète faisait la nuit. Hadith Aïcha radiallahu anha dit qu'un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala al-ash ahya al-layl. Lorsque les 10 derniers jours, lorsqu'il vivait les 10 derniers jours du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam passait la nuit en ibadah. Hadith de Imam Muslim. Hadith également de Ubadah ibn Samit, il dit que kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi al-'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Les efforts que le prophète alayhi salat wa salam faisait durant les 10 dernières nuits de Ramadan étaient exceptionnels, se distinguaient de tous les autres efforts qu'il pouvait faire durant les autres nuits de l'année, y compris donc les 20 premières nuits de Ramadan. Le hadith est clair également sur le fait que le prophète alayhi salat wa salam ne dormait pas. Hadith rapporté par Imam Ahmad, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم. Pendant les 20 premiers jours du Ramadan, le prophète عليه الصلاة والسلام partageait sa nuit entre le fait de dormir et le fait de prier. Mais فإذا كان العشر, mais lorsque c'était les 10 dernières nuits, là le prophète عليه الصلاة والسلام les passait en ibad. Et puis à différentes métaphores, qu'il serrait son pagne ou alors qu'il repliait son lit. Ces deux métaphores veulent bien dire que le prophète عليه الصلاة, un, n'approchait plus ses épouses, et deux, ne dormait pas la nuit et il passait l'intégralité de ses nuits en ibada, comme le dit hadith Anas bin Malik, et il pliait son lit. Et cela va à l'encontre de l'interdiction que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait à propos du fait de passer une nuit en ibada. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu la visite de trois sahaba qui essayaient de se dépasser mutuellement de les bonnes actions. Et parmi les sahaba, il y en a un qui dit que je ne dors plus les soirs. Tous les soirs je fais qiyamul layl. Il y en a qui dit que je ne me marie pas pour faire l'ibada. Il y en a qui dit que je ne mange plus, je fais saum, je jeûne toute ma vie. Le prophète alayhi salatu wassalam avait entendu ça, il était mécontent. On aurait pu se dire que le prophète doit être fier qu'il y ait de tels adorateurs d'Allah dans sa communauté. Non, bien au contraire. Le prophète est venu, il était en colère avec eux, il a dit que moi, je suis le plus pieux parmi vous. Je suis le prophète d'Allah. Il y a des fois où je jeûne, il y a des fois où je mange. Je suis marié. Et également, il y a des fois où, dans la nuit, je fais le ibada, mais je donne également le droit à mon corps, je me repose. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِفَ Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc il y a interdiction sur le fait de passer une nuit entière à ibad. Parce que le corps a besoin de son droit, et si quelqu'un est marié, il a besoin d'être auprès de son épouse aussi. Mais concernant la dernière des 4 de Ramadan, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que le prophète alayhi salatu wa sallam ne dormait pas du tout. Il passait, comme on vient de voir, l'intégralité de la nuit dans le ibad. La deuxième chose que le prophète alayhi salatu wassalam faisait dans la dernière décade, qu'il ne faisait pas dans les 20 premiers jours ou les autres périodes de l'année, il réveillait femmes et enfants qui pouvaient prier. Hadith de Ali radiallahu anhu, kana nabi alayhi salatu wassalam yuqidhu ahlahu fil ashr al-awakhir. Il réveillait sa famille dans la dernière décade, min Ramadan, du mois de Ramadan bien sûr. Wa kulla saghirin wa kabirin yutiqu as-salah. Ainsi que chaque personne, qu'il soit grand ou petit, qui peut tenir debout faire la salah. Si on a un enfant de 10 ans, de 11 ans à la maison, il n'est pas balire certes, mais on essaie de l'habituer. On essaie de le faire comprendre que, oh mon fils, oh ma fille, cette nuit, c'est une des nuits, ou c'est certainement la nuit la plus importante de l'année. Donc, faire en sorte que cet enfant grandisse avec ses valeurs. Parce qu'on a besoin d'inculquer à nos enfants les valeurs de notre dîn. Malheureusement, dans le contexte actuel, on les inculque les valeurs du dunya. Maintenant, si nous, en tant que papa, on n'est pas là pour montrer à notre fils ou à notre fille quelles sont les valeurs prônées par l'islam, mais quand est-ce qu'ils vont les intégrer? Si un enfant, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, parce que normalement, le prophète sallam a dit que « Mouru wa awladakum bis-salah », hein, ordonnez à vos enfants de faire la prière, à quel âge, hein? À 7 ans. Si dès l'âge de 7 ans, un enfant, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à ce qu'il devienne baligh, c'est-à-dire au moins pendant 7 années ou 8 années, d'accord, il a l'habitude que pour lui c'est un automatisme. Quand on est dans les 10 derniers jours de Ramadan, mon père me réveillait toutes les nuits impaires, ne serait-ce les nuits impaires, et je faisais la salat auprès de lui pendant une grande partie de la nuit. Mais quand cet enfant sera baligh à 15 ans, ben, alhamdoulilah, il aura déjà acquis ça. Pour lui, ça deviendra quelque chose de naturel, de normal. Et ça permet déjà de résoudre un problème qui a été évoqué hier avec des amis, qu'on ne sait pas c'est quoi nous passer une nuit ibada, on ne peut pas faire ça. C'est trop dur. Effectivement, c'est trop dur. Pour beaucoup de personnes, pour moi-même en premier, c'est difficile. Mais imaginez que depuis notre plus jeune âge, on avait reçu ce tarbiya, cette éducation, que le corps s'est habitué, qu'il y a 10 jours hein, dans l'année, qu'on se réveille, c'est intégré, le corps, l'horloge, hein, il a compris ça. Donc si l'enfant a été éduqué de la sorte, Inch'Allah, qu'il devient d'abalir, quand il grandira, pour lui ça restera quelque chose de tout à fait normal. Ça ne deviendra pas quelque chose d'insurmontable. Il y a des gens, quand ça arrive les nuits un peu, des cadres, pour lui c'est un cauchemar. Là, il faut se réveiller très tôt, mais je ne sais pas faire ça, je ne me sens pas capable, ça va être difficile et on se sent frustré. Il y en a d'autres qui font, moi j'arrive pas à le faire. Est-ce que je suis un mauvais musulman? Est-ce que je suis un hypocrite? Non, il n'y a pas tout ça, Inch'Allah. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Et les habitudes, on les prend quand? Très tôt. C'est pour ça que une des raisons pour lesquelles le prophète, il réveillait même les enfants qui pouvaient faire la salah. Et il y a une petite parenthèse également, on avait demandé à un des élèves, une des personnes qui a rapporté des hadiths de Anas bin Malik ibn Tabi'in, Abu al-Qasim al-Balkhi, dit que qu'en est-il d'une dame qui est en état d'impureté, ou alors qui est en état de nifas, qui vient d'avoir un bébé et qui donc ne peut pas prier? Est-ce que cette dame-là, elle ne va pas faire la salah? Mais ça veut dire qu'elle perd sa nuit du destin? Et là, elle a répondu que chaque personne pour qui Allah Azza wa Jal avait déjà accepté les a'mal du mois de Ramadan, ils auront leur part de récompense de la nuit du destin. Et ne serait-ce que même si une dame ne peut pas se mettre un sajjad, un musalla pour faire la salah, ne serait-ce qu'elle se réveille et elle fait d'autres types d'adoration. Elle fera le dhikrullah, qui ne nécessite pas le tahara, la pureté, ou elle fera les du'as. Elle demandera des invocations à Allah, et là aussi ce n'est pas nécessaire d'un état de pureté. Elle fera son wuzu. Et donc, faire en sorte que chaque personne de la maison réponde présent pour les nuits impaires, pour rechercher la nuit du destin. Deux. Troisième chose que le prophète alayhi salatu wa salam faisait, ou plutôt ne faisait pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, wa'tazala an-nisa, il s'éloignait, il ne s'approchait pas, s'éloigner, c'est un terme péjoratif, il ne s'approchait pas de ses épouses. Et quand le prophète faisait l'itikaf, ça c'est clair, mais les ulama disent que ce conseil est valable également les ghayr al-mu'takif. Pour celui qui n'est pas en état d'itikaf également, c'est mieux, hatta la yashghilu bi ghayr al-ibada, afin que la personne ne soit pas préoccupée d'autre chose. On doit consacrer la nuit ibada. C'est pour rester avec madame, on a les 350 jours de l'année. On a les 350 autres jours de l'année. Parmi les actions relatées par Aïcha radiallahu anha, elle dit que waghtasala bayna al-adhanayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre également un bain entre le maghrib et le isha. Et les ulama, les muhaddithis disent que le fait de prendre un bain, ça remet en forme la personne, d'accord, la personne se sentira plus frais et donc plus disposée à faire les ibad. Maintenant, il y a certaines actions accomplies par les pieux prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in, les grands a'imma. On ne va pas dire que c'est une sunnah directement, mais c'est des actions qui sont correctes. Si on peut le faire, c'est bien. Anas bin Malik le faisait. Il y a An-Nakhai, At-Tabari, Itamim Ad-Dari. Ils avaient l'habitude donc de prendre un bain, ça on a vu, mais également de se parfumer et de mettre de beaux vêtements. Parce que si un mu'min, il est conscient que quand il fait la salah, il se présente devant Allah Azza wa Jal, ce rituel-là, c'est important. C'est vraiment qu'il va donner de l'importance, de la considération pour le moment qu'il va passer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point. Deuxième point important, la nuit du destin, c'est quand? Bon, ça, c'est un petit classique qu'on voit rapidement. La première indication que le prophète alayhi salatu wa sallam avait donnée de hadith de Bukhari Muslim, taharru laylat al-qadr, rechercher la nuit du destin, fil ash al-awakhir, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans une autre version de Imam al-Nasa'i, Imam Muslim, le prophète était un peu plus précis, il avait dit, il tamisuha fi sab' al-awakhir, rechercher la nuit du destin dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Dans une autre version, le prophète sallam était encore plus précis, l'imam Bukhari, fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Là, le prophète sallam cite le mot impair. Donc, c'est pas le 22, ni le 24, ni le 28. Le prophète sallam dit les nuits impaires du mois de Ramadan. Maintenant, certains ulama, certains a'imma, ils ont le ijtihad, leur opinion. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, selon lui, il penchait plus pour la nuit du 23e. Imam Ahmad, il penchait plus pour la nuit du 27e. Maintenant, il y a les ulama qui disent également que d'une année à l'autre, la nuit du destin peut varier. Une année, ça peut être le 23, une année le 25, une année le 27, une année le 29. Maintenant, La question qu'on peut se poser, que sachant quelles sont les récompenses, on va voir qu'il y a dans la nuit du destin, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé la date précise de la nuit du destin? Alors, les ulama rahimahumullah disent que si Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa clémence, dans sa sagesse, n'a pas révélé avec précision la date de Laylatul Qadr, c'est pour que le mu'min donne un maximum d'attention, il se concentre au mieux les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et on va dire plus principalement les nuits impaires, mais il ne faut pas que, supposer qu'on savait que c'était le 25e, ben on se serait réveillé le 25e et on n'aurait pas donné d'importance au 21e, au 23e, au 27e ou au 29e. Et d'une manière générale, chaque nuit du Ramadan est Mubarak. Chaque nuit du Ramadan a une importance. Il serait injuste qu'un musulman, par exemple, il dit que bon, ben, je vais essayer de reconnaître les signes de la nuit du destin. Et si je l'ai vu, si j'ai vu des signes, hein, une personne nous a appelé ce matin, une personne du Sud, on va très vite là, hein, il dit que selon moi, c'était hier soir. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il y avait beaucoup de vent, faisait frais. Et puis il m'a dit que on a écouté Taravi, on a écouté Maghrib plus Isha. L'imam à Makkah a lu Inna anzalnahu fi laylatil qadr, Salat al-Maghrib et Salat al-Isha. L'autre imam a lu Inna anzalnahu fi laylatil qadr également. Il m'a dit c'est bien, je dis c'est des déductions, mais ça ne veut pas dire que c'était la nuit du destin. Il m'a dit pour faire frais, il était fait frais cette nuit aussi. Il avait le vent et il était fait frais un peu partout. Donc il fait froid, il y a un peu de vent depuis quelques jours, alhamdulillah. On est en hiver. Donc c'est un peu normal hein, qu'il y ait du vent. Je dis que mon frère, mon ami, c'est pas parce qu'il y a quelques petits signes tu as cru voir que c'est la nuit du destin. Et encore moins, il ne faut pas qu'une personne se dise que voilà, j'ai vu des signes, donc c'est bon, I get it, je l'ai eu. Et donc le 23, 25, 29, moi, je me réveille juste pour le petit déjeuner, pour Sahri. Je dis, madame, quand le manger est prêt, tu me réveilles parce que la nuit du destin, trop compliqué pour vous autres, mais moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu, donc non. Parce qu'on va citer les signes, hein. Il y a des signes de la nuit que le prophète a expliqué, mais encore une fois, si quelqu'un n'a pas vu les signes, et puis notre but, notre travail, c'est pas de veiller les signes, c'est pas que voilà, depuis la nuit du destin, les nuits impaires, je vais rester dehors, veiller, le gars fait pas ibadat, il veille seulement, il veille le ciel, il veille telle chose, il s'agoute la mer, les sucrés, les pas sucrés, les salés, et il passe la nuit à surveiller et il fait pas d'ibadat. Ce serait vraiment, dans ce cas, on n'aurait même pas besoin de shaitan. En général, c'est Shaitan qui nous détourne avec les waswasa, les pièges, les tanattu', l'exagération, les relous, etc. Mais enchaîné, il doit bien rigoler dans ce cas-là. Il dit qu'ils n'ont même plus besoin de moi. Ils sont autonomes. Voilà. Ils s'en sortent seuls. D'accord? Non. C'est-à-dire, les signes, c'est si quelqu'un a vu, alhamdoulilah. Mais même si quelqu'un a vu un signe, il ne doit pas le dire. Il ne doit pas dire aux gens. Autrement, la personne, il se dit que trop tard, ben, l'imam l'a fini vu. Fundi l'a vu hier. Ben, laisse tomber les autres jours, ben, le championnat de France commence demain. Ben, mais plus commence, on garde le match et puis c'est fini. Il n'y a plus besoin de faire des efforts, non. Alors, il y a certes des alamas, des signes. Et parmi ces signes, ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, hadith de Maman Ahmed, wa inna amaratuha anna shamsa takhruju sabihataha mustawiya laysa laha shi'a' mithla al-qamari laylat al-badr. Hadith de Maman Ahmed dit que le lendemain de Laylatul Qadr, lorsque le soleil se lève, le soleil, la lumière, les rayons du soleil sont atténués. Les rayons du soleil ne sont pas éclatants, ils sont atténués. Et Imam Muslim, rahimahullah, il commence ce hadith, dit que لِأَنَّ أَنْوَارَ الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ أَنْوَارَ الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ صُعُودِهَا تَتَلَاقَى. C'est-à-dire que quand le soleil se lève, il y a encore la lumière qui accompagne la descente des anges, et la lumière des malaïka, elle est plus forte que la lumière du soleil, et la lumière donc des anges, hein, la lumière des malaïka des anges, hein, atténue la lumière du soleil. Ça c'est pas le gars du coin de rue qui dit ça, hein. Ça c'est Imam Muslim, respect. C'est Imam Muslim, rahimahullah, qui dit que lorsque les anges, on sait, tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha, les anges viennent, ils descendent la nuit du destin, et dit que lorsque les anges sont descendus et lorsqu'ils remontent, leur lumière est encore présente, ce qui fait que leur lumière prend le dessus sur la luminosité du soleil. Il y a également d'autres versions, d'autres interprétations qui rejoignent à peu près ce sens, qui dit que parmi les anges qui descendent, il y a donc Jibril, et ça c'est cité dans Jibril salam, qui est cité dans le Suratul Qadr, d'accord, il dit que dans la nuit du destin, l'ange Jibril alayhi salam étend deux de ses ailes qui sont de couleur vert. Alors ça, c'est des textes hein, qu'on doit comprendre avec le cœur, avec la foi. Avec la foi en l'invisible, d'accord ? Ce n'est pas des paroles, je veux dire, que scientifiquement prouvées. Ça, c'est vraiment le iman bil ghaib qui nous permet de réaliser ça. Le prophète alayhi salat wa salam nous l'a annoncé. Donc, dans cette version, il dit que, je ne sais pas si c'est un hadith, hein, c'est une citation de Ka'b, radiallahu anhu. Donc, il dit que l'ange Jibril alayhi salam, on sait que l'ange Jibril alayhi salam a plusieurs ailes, et il a deux ailes de couleur vert qu'il déploie uniquement lors de la nuit du destin. Et cela, ça a un tel éclat, une telle lumière, que cela atténue la lumière, les rayons du soleil au matin. Donc ça, c'est un des signes. Donc si, bon, aujourd'hui, à la réunion, c'est le 22 ce soir, d'accord, demain, c'est une nuit impaire, ben, vérifiez au lever du soleil comment est le soleil. Et puis on verra, d'accord. Autre signe, ça c'est l'histoire de Uthman ibn Abi al-As radiallahu anhu. Selon lui, lors de la nuit du destin, la mer, le goût donc de l'eau de mer est doux. Wallahu a'lam. D'accord ? Et chose qu'on avait expliqué, on ne va pas tirer les mêmes vannes tous les ans, on avait expliqué l'année dernière, il y a deux ans, que n'allez pas goûter, hein, n'allez pas au spot de Saint-Leu et faire des vérifications le matin, parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe là-bas, tous les jours, il y a un surfeur en moins. Donc, on ne va pas se risquer sa vie. Le but, c'est de ne pas aller goûter l'eau pour savoir. Le but, c'est que si on a vu un signe, alhamdulillah, on remercie Allah que durant cette nuit, on était réveillé. Mais la meilleure façon, mes chers frères, pour être sûr qu'on a eu la nuit du destin, ben, c'est de répondre présent toutes les nuits. Et moi, je dirais même, ça n'engage que moi, même les nuits pères, par rapport aux vertus qu'on a dit hein, pour le mois de Ramadan. Mais, subhanallah, ce soir, c'est le 22e ici. Mais, dans mon cœur, je me dis que Amakatul Mukarrama, c'est le 23e. Donc, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas tranquille. De crainte qu'on loupe, qu'on passe à côté de quelque chose. D'accord ? Donc, je pense qu'un mu'min doit faire ses efforts les 10 dernières nuits, sans exception. Que ce soit père ou ce soit impère. Et ça me rappelle l'histoire d'un des sahaba hein, à propos de Muharram. Quand on jeûne 9-10 ou 10-11, j'ai plus en tête un sahaba dit que moi je préfère jeûner le 9, le 10 et le 11. De crainte que on s'était trompé dans la vision de la lune du Muharram et que je passe à côté d'un jour. Donc on veut dire que pour lui c'était l'extrême précaution. Sachant quelle vertu il y a, il ne voulait surtout pas louper. Donc plutôt que de faire deux jours, je fais les trois pour être sûr d'avoir jeûné au moins deux jours parmi les jours conseillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc idéalement, le mu'min doit essayer même les nuits pères de passer en adoration. Parmi les signes également, on va aller un petit peu plus vite, parmi les signes également, il dit que lors de la nuit du destin, ça a été perçu, hein, c'est pas un hadith, hein, l'histoire de Hammad ibn Shu'aib, il dit qu'il a vu que lors de la nuit du destin, il regardait, observait un dattier et les branches étaient un peu affaissées. C'est comme si que les branches étaient courbées. Donc est-ce que c'est applicable pour tous les arbres? Wallahu a'lam, ça a été observé là-bas dans la péninsule arabe. Donc, comme si que les arbres étaient un peu penchés, comme si qu'ils étaient en position de recours ou de sujoud, Wallahu a'lam. Également, une version qui dit qu'en cette nuit, on n'entend pas, bon ça vraiment, on ne parle pas de hadith à proprement dit, que selon cette nuit, on n'entend pas les chiens non plus aboyer. Est-ce qu'ils aboient pas du tout, aboient pas excessivement, Wallahu a'lam. Et également, on parle également d'une lumière, le ciel est un peu éclairé durant la nuit du destin. Et là, il y a ce que notre ami Saint-Pierre nous a dit, Al-Jaw, hein, le temps est doux. La barda fiha wa la har, c'est une soirée qui est ni chaude ni trop froide, c'est un temps doux, hein, mu'tadil, juste milieu. Maintenant, encore une fois, on a dit, si quelqu'un a senti ces signes, remercie Allah qui lui a donné le tawfiq d'être présent, mais en aucun cas il doit le dire. En aucun cas il doit le dire. De un, pour pas qu'il y ait de l'ostentation, pour qu'il veuille faire croire aux gens que moi je suis quelqu'un d'important, je suis un homme pieux, donc moi je vois des signes qu'Allah envoie, et donc ce que toi tu n'as pas vu, moi je l'ai aperçu, donc je te dis non. Il n'y a pas de nécessité de le dire aux gens. Alors, les choses qui se passent durant les vertus qu'il y a de cette nuit, premièrement, les actions sont multipliées. Khayrun min alf shahr, justement, l'induit du destin vaut mieux que mille mois. Et mille mois, ça fait 83 années. Et il y a également, on ne va pas aller trop loin aussi, on ne va pas trop donner de détails, le prophète alayhi salat wa sallam nous expliquait pourquoi est-ce qu'Allah a accordé ce cadeau à la Ummah. Les sahaba de Dwanullah et Ali Majma'in étaient fascinés par les gens, les populations avant nous. Les populations avant nous qui avaient une espérance de vie beaucoup plus longue que nous, et donc ils pouvaient cumuler des dizaines d'années, voire 80 années de ibada cumulées. Alors que cette Ummah, l'espérance de vie 60, 70 ans, jamais une personne ne peut faire 80 années par exemple de ibada cumulées. Et lorsque le prophète a vu cette tristesse, Allah Azza wa Jal a révélé le surat, comme on a dit une fois, qui avait déjà été décrété dans le Lawh Mahfouz et révélé, et qui par rapport à ces circonstances a été révélé. Cadeau qu'Allah Ta'ala fait à cette Ummah par rapport au fait que notre espérance de vie est beaucoup moins importante que les communautés avant nous. Donc c'est un cadeau pour permettre à chaque personne appartenant à la Ummah du prophète alayhi salatu wa salam, on ne va pas dire de rivaliser parce que la Ummah du prophète sera toujours au-dessus, mais d'avoir eux aussi, d'avoir nous aussi inshallah, des nuits qui nous permettent d'obtenir des années concrets de ibadah. Donc la première chose c'est l'augmentation de récompense, donc une nuit de Laylatul Qadr équivaut à peu près à 83 années de ibadah. Également, surtout, hein, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est la nuit du destin, où Allah Azza wa Jal prédestine beaucoup de choses. Autre chose qui se passe également, le maghfira, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le ghuroub shams, depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Man qama laylatal qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, le hadith de base de l'imam Bukhari, celui qui passe cette nuit de l'adoration, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner l'intégralité inshallah de ses péchés. Autre point important de cette nuit du destin, istijabatu du'a. Imam al-Thawri rahimahullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah, dit que ad-du'a fi tilka al-laylati ahabbu ilayya min as-salah. Ça c'est l'opinion, c'est pas un hadith, ça c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri. Il dit que pour moi le dua a plus d'importance de cette nuit que la salah. Il préférait passer plus de temps dans les invocations, sachant que c'est une nuit où les duas sont acceptés. Donc essayons, on va dire qu'on peut donner autant de temps entre la salah, répartir sa nuit entre les prières, la salah, et les invocations, les duas. Et parmi les choses qui se passent durant cette nuit, jamais durant l'année, les restes de jours de l'année, il y a autant de malaïka qui descendent du ciel. Dans certaines sources, il est même dit qu'il y a des anges spécifiques qui descendent uniquement lors de la nuit du destin. Qasam dit al malaika tu tilka al-layla fil ardi akthar min adad al-hasa. Il y a plus d'anges dans ce dunya lors de la nuit du destin que de pierres qu'il y a. Al-hasa, c'est de pierres, des petits cailloux qu'il y a dans ce dunya. Métaphore pour nous faire comprendre qu'il y a énormément d'anges. Dans certaines sources, c'est dit qu'il n'y a pas un espace de quatre doigts, c'est-à-dire une main de ce dunya, sans qu'il y ait un ange qui est présent, spécifique, uniquement pour la nuit du destin. Ibn Kathir, rahimahullah, il commente, il dit « Yanziluna ma'atanazzulil barakati wa rahma » En même temps qu'Allah Azza wa Jal envoie sa bénédiction et envoie sa rahma, sa clémence, les anges descendent et accompagnent cette rahma qui descend dans ce dunya. Et les muhaddithin, rahimahullah, ils expliquent également l'opinion de l'imam al-Qurtubi, l'imam Bayhaqi. Il dit que les malaïka, lorsqu'ils descendent, ils passent près des personnes qui sont réveillées en train de faire le ibad. Hadith de Anas ibn Malik, rapporté par l'imam Bayhaqi, il dit que lors de la nuit du destin, l'ange Jibril alayhi salam descend avec une compagnie, avec une quantité de malaïka, et il passe près des personnes qui font la salat, wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkuru Allah ta'ala. Et l'ange Jibril salam transmet ses salams à chaque mu'min qui est debout en train de faire la prière ou qui est assis en train de faire le dhikrullah, en train de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ces quelques textes, c'est un petit récapitulatif des choses qu'on connaît déjà sur le du destin, mais c'est peut-être une réponse à cette interrogation, cette question qui a été posée hier, comment passer une nuit en ibada. Donc la première solution, c'est de prendre conscience de l'importance de cette nuit. Prendre conscience que cette nuit, on peut cumuler une quantité de hasanat qu'on n'aurait jamais pu cumuler, même si on passait toutes les autres nuits de l'année, les 350 autres nuits de l'année, dans le ibada. Et comme on a maintes et maintes fois rappelé que le jour des comptes, c'est une question de comptabilité. Il y a des gens pour qui manqueront un hasana, pour leur permettre d'avoir le côté de la balance des bonnes actions plus lourd pour aller au paradis. Et à cause d'une hasana, la personne va être dans des difficultés le jour des comptes et elle ira rechercher des bonnes actions avec sa femme, ses parents, ses enfants qui ne voudront pas donner même un subhanallah, même un alhamdulillah, même Allah. Maintenant, pensez, une nuit est équivalent à 83 années. C'est des chiffres difficilement acceptables par l'être humain. D'accord ? Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous dit, vous travaillez une nuit, je vous paie 83 années. C'est même pas... c'est inimaginable. Hein, c'est pas possible. C'est-à-dire que les récompenses, ça c'est une preuve de la générosité d'Allah. Et quand on parle de générosité d'Allah, ça fait exploser les chiffres. Ça fait exploser la calculatrice. 83 années pour une nuit passée, ça peut paraître excessif, exagéré, na'oud billah, mais on parle de Allah qui est karim, Allah qui est généreux. Et quand Allah décide de donner, Allah donne sans compte. Et donc si vraiment on est conscient qu'on peut cumuler autant de hasanat, jamais un mu'min ne laisserait passer une nuit du destin. Et quand on pense également que nos doigts sont acceptés, il n'y a pas un mu'min qui n'a pas, hein, c'est une citation magnifique de... des ulama, Cheikh Maram ici, rahimahullah, Hafidhullah, qui est toujours vivant, il dit que en cette nuit, hein, tout ce que tu as sur le cœur, tu dois dire. Il dit, il n'y a pas une personne qui n'a pas un rêve, qui n'a pas un souhait de son cœur. Mais c'est le moment de parler à Allah de ce désir, de ce souhait. Il n'y a pas une personne qui n'a pas intérieurement des péchés qu'il a cumulés et il aimerait qu'Allah ta'ala lui pardonne. Mais c'est le moment de parler à Allah Azza wa Jal de ces péchés-là et demander à Allah tawba et de demander à Allah tawfiq de s'en sortir. Et il n'y a pas une personne qui a des défauts cachés qu'il aimerait qu'Allah ta'ala protège son honneur, son izzah, et qu'il aimerait qu'Allah Azza wa Jal lui permette, hein, d'éliminer ses péchés, ce défaut, et idéalement de transformer ce défaut en qualité. Donc c'est vraiment le moment pour le mu'min de demander tout ce qui est imaginable pour son din, mais également ce qui est possible pour son dunya. Et comme on avait dit hier également, demander des doigts pour nous, pour notre épouse, pour nos enfants, pour nos parents, pour les personnes décédées, pour notre avenir, pour notre réussite, pour tout ce qui est profitable pour l'être humain dans ce dunya et de l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donc je pense qu'on va s'arrêter à là. C'est pas qu'on pense, on va s'arrêter à là, inshallah. Et demain, ce qu'on va faire, c'est peut-être pas des habitudes, mais on va essayer de montrer une nuit type de ibadah. Comment est-ce que, avec l'horloge à la main, qu'est-ce que je peux faire pour, entre guillemets, meubler une nuit de ibad ? Parce que ça paraît insurmontable de dire que quoi, depuis minuit, par exemple, je rentre à la maison, là, on rentre, on mange un petit peu et tout et tout, depuis 11h30, minuit, rester éveillé jusqu'à le lendemain, pour beaucoup, c'est impossible, c'est-à-dire jusqu'à 4h, on va dire, jusqu'à 4h30, le temps qu'on commence à prendre le suhoor, 4h30, voire 5h de ibad. Mais on va voir qu'il y a certaines actions qu'on peut faire. On peut distribuer des actions durant une nuit qui fait qu'on ne ressentira pas la fatigue d'avoir plus de motivation pour accomplir la salah. Si on va faire le tahajjud comme on fait namaz zohar, comme on fait namaz asab, assurément on va être fatigué. On va être, excusez-moi l'expression, mais on va être lassé à un moment donné. Mais cette salah de tahajjud, c'est une salah qui n'est pas une salah de faraz. Donc dans la salah de tahajjud, il y a des formules qu'on peut dire en plus. Donc c'est l'occasion de réciter dans le Qiyam ou l'aile des formules qu'on n'a pas l'habitude de lire, et ça va rendre le tahajjud, alhamdulillah, ça va lui donner une connotation spéciale. Et on va voir quelques formules que le mu'min peut rajouter dans ces Qiyam ou l'aile, et comment on peut faire des pauses en chaque rak'at, en chaque unité de prière, pour faire d'autres azkar, d'autres ibadah, etc., pour que on peut, inshallah, essayer, on essaie de s'entraîner. Le 21e, je ne sais pas comment on l'a passé, mais le 23e, si le 21e on s'est réveillé, je dis au hasard, à 3h du matin, mais le 23e, on peut essayer de se réveiller à 2h du matin. Et si ça a marché, le 25e, ben, on ne dort pas. Et si ça a marché, le 27e, pareil, on redouble d'efforts, inshallah, et pareil pour le 29e. Demain, on va essayer de voir une nuit type de nuit du destin, quelques suggestions pour passer une nuit dans l'adoration sans être excessivement fatigué. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.